Alors, dans ce podcast, on va voir ensemble comment évaluer un marché. Alors, en fait, évaluer un marché, si on veut créer une entreprise, créer un produit, lancer une start-up, etc. etc. Alors, d'abord, bon, vous avez le plus simple, c'est les études qui sont déjà publiées. Les études, en fait, qui existent, qui sont, par exemple, des études Gardner, des études que vous retrouvez sur Internet. Alors, il faut souvent se méfier parce qu'en fait, il y a beaucoup de biais. Les études prospectives qu'on trouve sur Internet avec, tiens, dans le futur, dans un an, deux ans, trois ans, il y aura tant de personnes qui vont faire ceci, qui vont utiliser le mobile, etc. D'expérience, on se rend compte que c'est beaucoup en fait de la prévision, un petit peu avec la boule de cristal. Donc en fait, ça peut être juste pris comme des grandes tendances. Alors il ne faut pas du tout faire attention aux dates, il ne faut pas faire attention au pourcentage de croissance. Il faut véritablement prendre ça comme un indicateur avec une tendance à venir. Donc ça ne peut pas servir pour vous, pour votre étude de marché et pour analyser votre potentiel de client. Alors comment vous pouvez faire ? Vous allez déjà commencer par utiliser des sources relativement factuelles, relativement sûres. Alors la première, en fait, c'est tout simplement Google. Parce qu'en fait, Google a les résultats de tout ce que les gens tapent sur Internet, dans le moteur de recherche. Donc en fait, la loi du grand nombre fait que c'est relativement fiable. Alors pour cela, vous avez donc plusieurs outils. Le plus simple, c'est tout simplement Google AdWords, donc l'outil de régie publicitaire de Google. Et là, vous allez taper vos mots-clés, et vous allez taper, par exemple, si vous voulez vendre des scooters, vous tapez « vente de scooter », et là, en fait, vous allez voir combien de gens cherchent plutôt à acheter un scooter. Et donc, vous pouvez même faire une recherche par ville, par pays, par département, etc. Donc là, vous pouvez dire « tiens, il y a tant de personnes qui recherchent à acheter des scooters dans ma ville ». Ça, c'est la première étude. Après, en fait, vous avez aussi Google Trends. Google Trends, Google Tendances, vous permet en fait tout simplement de voir les tendances de recherche pour un mot-clé sur le long terme. Et donc, ça vous permet de savoir, par exemple, si un marché est plutôt en expansion ou si c'est un marché plutôt en décroissance ou un marché qui stagne. Tout simplement parce qu'avec Google AdWords, vous aurez un volume actuel de recherche et avec Google Trends, vous allez avoir le volume que vous avez en fait sur la durée. Alors après, un autre outil qui vous permet de savoir si y a un potentiel ou pas, c'est tout simplement Facebook. Parce que Facebook aussi a Facebook Ads et comme Facebook a des millions et des millions de personnes qui sont inscrites, vous pouvez utiliser ça pour estimer un marché. Donc vous allez bien sûr dans les centres d'intérêt et là vous allez voir quand vous faites une publicité combien de personnes sont intéressées par telle thématique. Et avec ça déjà, ça vous donnera une petite idée. Après, vous pouvez également utiliser Google en tapant dans le moteur de recherche avec un mot-clé entre crochets ou entre guillemets. Entre crochets, c'est-à-dire que c'est vraiment l'expression type. Et entre crochets, ça va être vraiment l'expression un peu plus large, où on peut avoir des mots en plus. Mais ça, en fait, ça vous permet de savoir combien de sites internet ont été créés pour répondre à cette demande-là. Donc là aussi, ça vous donne une petite idée de la tendance du marché, si c'est quelque chose qui est important ou pas. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà une petite idée comme quantitative. Maintenant, on va passer au qualitatif. Alors, le qualitatif, à quoi il sert ? Il sert quand même à vérifier un petit peu vos hypothèses et si vous êtes sur un marché qui est porteur ou pas. Alors, le plus simple, c'est tout simplement d'aller rencontrer une dizaine de prospects. Alors, bien sûr, vous allez leur dire qu'est-ce que vous pensez de ça ? Quelle est votre problématique ? Etc. etc. Il ne faut pas encore présenter votre produit d'abord, parce qu'autrement, il y aura un biais. Et vous leur demandez leur problème. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème ? Est-ce que c'est important ? Pas important ? Est-ce que c'est urgent ? Est-ce qu'ils seraient prêts à payer ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont des problèmes, mais qui ne sont pas prêts, en fait, à payer parce que, tout simplement, ils estiment que ce n'est pas assez important. Ou alors, ils n'en ont pas les moyens. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un qui écoute de la musique comme moi en MP3 avec un podcast, et vous dites attention, dans 5 ans ou 10 ans, à force d'écouter de la musique forte comme ça avec ton baladeur MP3, tu vas plus en fait avoir une bonne audition. Et donc là, vous direz oui, mais ok. Je suis conscient, mais finalement, c'est pas une priorité. Donc, vous aurez beau avoir une solution qui va réduire le son, qui va avoir une meilleure qualité, si les gens ne sont pas prêts à payer, s'ils ne sont pas conscients de cela, vous n'aurez pas de marché. Donc, c'est vraiment important de savoir s'il y a vraiment quelque chose de qualitatif, des freins ou des choses comme ça. C'est vraiment l'aspect qualitatif. Parce qu'en fait, en interrogeant 10 personnes, on n'arrivera pas en fait à une certitude. C'est encore une fois du domaine de quelque chose qui est plutôt le domaine de l'intuition et qui permettra d'être validé après, éventuellement avec des études plus larges. Alors des études plus larges, c'est normalement 400 personnes pour avoir un taux de probabilité qui soit à peu près raisonnable, avec un intervalle de confiance qui soit correct, il faut avoir 400 résultats. Donc bien sûr, vous pouvez faire une étude, par exemple, si vous avez une base client, une base procès. Vous pouvez également poser des questions sur des forums, envoyer à vos contacts. Mais bien sûr, là, le problème, c'est que vous aurez une étude qui sera relativement biaisée, puisqu'en fait, ce sont en fait des gens qui répondront peut-être parfois pour faire plaisir, ou qui répondront vite fait, ou qui ne sont pas tout à fait dans la cible, ou alors vous aurez ciblé des personnes, non pas au hasard, mais des personnes qui sont vraiment dans ce secteur d'activité-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est un biais. Alors bien sûr, il existe des panels avec des grosses sociétés qui vous permettent d'accéder à des fichiers de clients, qui répondent à des questions. C'est vrai que c'est bien, mais c'est souvent un coût un petit peu trop élevé. Mais déjà là, en ayant aussi une rencontre avec des blogueurs et des experts, ça c'est quelque chose qui est très efficace. C'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne qui blogue sur cette thématique, vous dites ben voilà, je t'invite à déjeuner, ou viens prendre un café, ou est-ce que je peux vous inviter au restaurant, etc., etc., pour discuter avec vous. Et donc, ou alors vous payez tout simplement du consulting, vous faites du consulting par Skype, par téléphone, etc. Il y en a beaucoup de gens qui font ça, hein, où vous pouvez en fait appeler un expert dans un domaine d'activité et vous discuter avec lui une demi-heure, une heure au téléphone. Rien qu'avec ça, une demi-heure, une heure au téléphone avec un expert, quelqu'un qui s'y connaît bien, quelqu'un qui travaille dans ce secteur d'activité, vous pouvez vraiment faire des miracles. Alors bien entendu, vous pouvez aussi travailler avec LinkedIn et Viadeo. Hein. Vous tapez sur LinkedIn et Viadeo le nom de la personne ou du secteur d'activité, etc. Et vous dites, tiens, voilà, j'aurais quelques questions à vous poser. Vous pouvez même le passer sous la forme en fait d'une interview. C'est-à-dire que voilà, je fais une interview téléphonique sur les acteurs de tel secteur d'activité, etc., etc. Et puis en discutant comme ça à bâton rompu, parfois vous pouvez trouver des idées de choses qui vont vous aider pour votre analyse du marché. Donc ça, vraiment, l'expert en plus des clients, c'est quelque chose d'important. Alors bien sûr, posez-vous vraiment une question. Et ça, c'est une question fondamentale. Et souvent, les gens ne se la posent pas. Ils se posent la question, mais les gens ont besoin d'acheter mon produit, il est génial. Mais la question, c'est de se poser pourquoi ce que vous voulez inventer n'existe pas sur le marché. Ça, en fait, souvent, les gens se disent, ouais, mais les gens en ont besoin, etc. Ça va être génial. Mais le problème, c'est de se dire, mais pourquoi quelqu'un n'y a pas pensé avant? Parce que généralement, toutes les idées, toutes les choses ont déjà été largement bien inventées auparavant. Donc en fait, il faut vous poser cette question-là et vous dire, bah, pourquoi? Quelles sont les limites? Alors justement, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre à la place du client en disant, voilà, il y a ça, ça et ça. Et donc parfois, souvent, c'est prendre des nouvelles tendances, par exemple le big data, par exemple les médias sociaux, par exemple les nouvelles technologies, et vous dire, bah tiens, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce que c'était pas possible, ça n'existait pas. Il y a quelques années, le big data n'était pas possible parce qu'on n'avait pas les ordinateurs qu'il fallait. Donc ça, c'est important. Ou alors, tout simplement, il faut plutôt prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut faire plus simple. Il faut analyser les points de friction sur un marché. Par exemple, sur la réservation des hôtels, un point de friction, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Donc voir sur les forums, voir les commentaires de blog, voir les avis, etc. Et voir comment vous pouvez améliorer une solution et répondre le mieux possible. Donc voilà, ça c'est une chose à faire. Ou alors se concentrer sur un besoin clé, un besoin simple, et pas vouloir tout imiter, mais faire quelque chose de simple, d'important, qui compte et qui pose problème le mieux possible, de la manière la plus simple et la plus pratique. Par exemple, en fait, on peut prendre les cas des applications mobiles. Pour l'instant, en fait, la réservation de tout ce qui est voyage, hôtel, etc., surtout des hôtels, se fait en avance. Donc avant, on avait des catalogues, on utilisait un catalogue papier. Ensuite, sur Internet, on utilisait en fait le web pour choisir d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Et maintenant, avec les apps mobiles, on peut même choisir du jour au lendemain. Donc le fait peut-être de reprendre en fait la mobilité et se dire voilà, je vais faire une chose grâce à un nouveau média, le mieux possible je vais me concentrer sur une seule chose, un problème majeur qui n'est pas répondu sur le marché, et je vais maintenant y répondre de la manière la plus simple, la plus pratique, la plus ergonomique, et en apportant un maximum de valeur ajoutée. Donc là encore une fois, ça c'est pas dans l'analyse du marché, mais c'est plutôt pour la réponse à la demande du marché et pour avoir un produit qui va véritablement être un vrai succès.